France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que s'est ouverte hier la COP16 sur la biodiversité à Rome, après l'échec cuisant de celle de l'an dernier en Colombie, lumière ce soir sur la nature, sur l'idée même de nature et plus précisément sur sa conservation. Quel imaginaire ce concept qui nous paraît pourtant si consensuel charrie-t-il? En quoi l'action de certaines ONG dans ce domaine et particulièrement en Afrique peut-elle être critiquée, déconstruite, parfaite? Pourquoi et comment peut-on lire au prisme d'un colonialisme vert cette tendance à vouloir conserver la nature? Pour en parler, un invité ce soir, Guillaume Blanc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Vous êtes l'auteur notamment de L'invention du colonialisme vert qui est paru en 2020. Et vous venez de faire paraître cet ouvrage intitulé La nature de l'historien par le haut, par le bas. C'est chez CNRS Éditions. Et à mes côtés pour conduire cette interview, Lou Elio, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes la nouvelle voix de l'hebdomadaire Le 1, rédactrice en chef adjointe de cet hebdomadaire. Vous remplacez Julien Bisson. Bienvenue Lou et merci d'être dans Question du soir. Et vous avez choisi, Lou, de consacrer la une de l'hebdomadaire Le 1 cette semaine à cette question: à qui appartient la nature? Alors pourquoi ce choix?
Oui, nous avons pris un peu d'avance au 1 cette semaine et nous nous sommes projetés dans le printemps qu'il nous tarde tant de voir arriver pour nous poser la question de notre rapport à la nature et aux espaces naturels. Sont-ils vraiment accessibles à tous? Qui peut décider de leurs usages? Que voulait dire Descartes lorsqu'il parlait de se rendre comme maître et possesseur de la nature? Faut-il la laisser reprendre ses droits ou bien, paradoxalement, posséder les espaces naturels pour mieux les préserver? Pour répondre à cette question, à qui appartient vraiment la nature, vous retrouverez dans les pages du 1 l'anthropologue Philippe Descola, l'écrivaine Gabrielle Filtoshiba ou encore l'historien Guillaume Blanc avec nous ce soir.
Que nous avons invité donc le printemps, c'est à venir, mais pour l'heure, on parle de COP et de COP de biodiversité.
La conférence a à peine commencé que déjà le temps presse. Lors de l'ouverture de la session de rattrapage de la COP 16 à Rome, l'ONU a rappelé l'urgence de la situation. Tous les pays sont touchés par la crise de la biodiversité et aucun ne peut la régler seul. Nous partageons la nature et nous en dépendons. Le multilatéralisme est notre seul espoir. J'appelle toutes les parties à trouver un terrain d'entente et à chercher des solutions. On pourrait croire qu'il s'agit de décisions techniques, mais ce sont bien des choix politiques. Sommes-nous capables de nous accorder sur les moyens dont cette convention et le cadre de Montréal ont besoin?
La première voix entendue, Guillaume Blanc, est celle de la directrice exécutive adjointe du programme de l'ONU Environnement, qui s'exprimait justement lors de cette COP à Rome qui a lieu actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression qu'elle a employée? Nous partageons la nature. Est-ce que cela a du sens pour l'historien que vous êtes?
Alors oui, cela a du sens parce que cette expression a toute une histoire en fait. C'est à partir des années 80 et puis du rapport Notre Terre à tous ou le rapport Brundtland. Mais ce qui est intéressant, quoi, elle dit « nous partageons la nature », on parle de qui? C'est un « nous » globalisé, c'est très bien, mais en fait de quelle nature parle-t-on? La nature qui est déjà détruite quasiment en Europe, en Occident, ou de la nature qu'il va falloir sauver, mais à quel prix? Parce que là, ce qui se joue à la COP 16 notamment, c'est le programme 30-30, 30% de la planète mise en parc en 2030. Mais qui va être mis en parc? Les Cévennes, les Pyrénées, l'ouest de l'Allemagne, ou plutôt la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Mozambique, avec les privations que ça va exiger pour celles et ceux qui sont concernés par ces parcs. Donc oui, nous partageons tous la nature, mais on ne paye pas tous le même prix pour la partager.
Une question qui vous est posée par Lou Elio.
Alors, comment justement les politiques publiques qui vont être mises en place par chacun des pays à la suite de cette COP vont être évaluées?
Alors, les politiques pour évaluer, c'est en fonction, on va dire, du déclin de la biodiversité. On a, par exemple, pour cela, l'un des plus grands indicateurs, c'est la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et ça révèle à la fois les solutions et les problèmes. L'UICN, en fait, dresse la liste de 160 000 espèces où on a des données scientifiques, à propos desquelles on a des données scientifiques. Et donc, c'est la taille des populations, la répartition et le degré de reproduction. Bon, l'UICN est clair, 46 000 espèces, là-dessus, sont menacées d'extinction. Mais par contre, quand l'UICN doit débattre des causes, elle emploie ce terme de taux de déclin. Et en fait, là, il n'y a aucune donnée historique qui vont en dessous des années 80-90. Et en fait, l'UICN n'ayant pas ces données, soit elle reprend des chiffres, et alors j'en suis le premier désolé à le dire, mais totalement faux. Et puis surtout, elle n'énumère pas les causes. Et là, qu'on soit de gauche, de droite, etc., c'est que c'est le capitalisme qui détruit. Et c'est pour ça que les COP16 continuent d'être un échec. Puisque tant que les États responsables de l'économie capitaliste seront ceux qui proposent les solutions pour remédier à cette crise, ben les COP16 continueront. Bon, là, c'est la COP16 pour la biodiversité, puis on aura la COP35. Voilà.
La COP de l'an dernier, en revanche, la COP 15 qui s'était tenue en Colombie, on le rappelle, avait vu une mesure importante, la création d'un groupe permanent de représentation des peuples autochtones au sein de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Est-ce que ce groupe-là, cette création, représente pour vous une avancée ?
Alors, oui, ça représente une véritable avancée. Le droit des populations dites autochtones, c'est depuis les années 80, encore plus depuis 92 et la Convention de Rio. Mais là encore, qu'est-ce que ça veut dire autochtone ? Il faut bien quand même... Alors c'est très basique à dire, mais personne ne se définit comme autochtone. Aucun de nous ne se définira comme un être traditionnel ou autochtone. Donc qui les nomme autochtones ?
C'est forcément un regard extérieur.
Bien, est-ce que vous connaissez un seul paysan français qui va se dire « moi je suis quelqu'un traditionnel » Comme disait ma grand-mère, avant elle allait à la foire aux châtaignes, maintenant elle va à la foire aux traditions. Eh bien, en Afrique de l'Est par exemple, moi les paysans, et c'est pas un terme péjoratif, avec lesquels j'ai pu discuter longuement, des années après années, ont ce terme de « apes ». Alors j'étais choqué, je leur disais « mais c'est quoi apes ?» Et eux me disaient, bah, c'est ce qu'il faut dire pour qu'on ait une chance de participer à vos politiques, autochtonous people. Et on disait, ah, et du coup, vous l'employez? Oui, c'est le seul moyen d'entrer dans les rapports qui vont décider de notre mode de vie. Donc oui, c'est une avancée, mais attention, qui se définit comme tel?
Lou Elio.
Guillaume Blanc, dans votre travail d'historien, vous prenez les parcs naturels comme objet d'étude. Pourquoi ce choix? Pourquoi cet intérêt?
En fait, moi, j'ai eu la chance d'être formé au Canada, enfin plutôt au Québec, à la chaire d'histoire environnementale du Canada. Et donc, moi, ce que j'étudie, c'est les rapports sociaux à la nature. J'ai pris les parcs de manière très vraie, parce que je viens des Cévennes et que du coup, j'ai grandi en randonnant dans le parc national des Cévennes. Mais après, c'était mon objet d'étude. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé, justement. C'est, alors, je faisais de l'histoire de l'Afrique. Et c'est d'avoir aperçu la différence de traitement entre le parc national des Cévennes, qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité, pour une raison, je vous cite l'archive, parce que l'agropastoralisme, donc les agriculteurs et les bergers, ont façonné un paysage exceptionnel. Et en Éthiopie, au nord, dans le parc du Simien, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, eh bien, les paysans ont dû être expulsés parce que l'agropastoralisme dégrade la valeur du bien. Et du coup, je me suis demandé pourquoi ce deux poids, deux mesures. Et c'est comme ça qu'après, il faut plonger dans les archives pendant des années, jusqu'à être invité 10 ans après.
Plonger dans les archives et plonger dans les sons, on va justement se projeter dans ce parc du Siemen.
En 2016, plusieurs milliers de villageois ont été contraints de quitter leurs terres ancestrales, l'aboutissement d'une demande très ancienne de l'UNESCO. Ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur, reconnaît Solomon, guide dans le parc national des Cévennes.
Oui, d'abord, ils se sont dit que c'était leur environnement, donc personne n'était content.
Il fallait donc y aller en douceur, selon Alistair Paul, responsable de l'ONG African Wildlife Foundation, qui co-gère le parc avec les autorités.
Pendant des décennies, ils ont eu accès au parc de différentes manières. Tout stopper d'un coup reviendrait à se les mettre à dos. Ils ne soutiendraient pas le parc ni les efforts de conservation.
L'idée, c'est de tisser une relation de confiance, explique Astrid Wein de la coopération autrichienne qui s'implique depuis le début des années 2000 dans les Cévennes.
C'est un processus de transformation des comportements. Dans ce genre de situation, vous devez vous impliquer pendant au moins 15 ans aux côtés des communautés si vous voulez obtenir des résultats durables.
Qu'est-ce qui vous a intéressé, Guillaume Blanc, dans ce parc du Siemens? Vous revenez notamment sur une idée extrêmement consensuelle dans les sociétés occidentales, l'idée de la conservation de la nature. On a du mal à comprendre, sans vous avoir lu, on comprend bien mieux par la suite, je vous rassure, on a du mal à comprendre ce que vous pouvez voir de nocif, a priori, dans cette notion.
Alors, c'est vrai qu'il faut le résumer de manière courte. Il y a plusieurs choses. Là, dans ce qu'on vient d'entendre, ils disent que faut pas se mettre à dos les communautés et que là, l'expulsion, elle date de 2016. C'est tout à fait faux. En 1965, l'UNESCO a proposé l'expulsion des paysans du Siemens. En 1969, le parc a été classé. Le jour du classement, les paysans ont pris leurs fusils et ont essayé d'abattre les bouquetins du parc, les Walia ibex, qui vivent sur les falaises, qu'ils ne chassent pas et qu'ils ne mangent pas. Ils ont essayé de les abattre en disant « s'il n'y a plus de bouquetins, il n'y a plus de parc et on ne va plus être expulsés ». Ils ont été expulsés une première fois en 72, ils sont revenus. Ils ont été expulsés en 94, ils sont revenus. Ils ont été expulsés en 2016, aujourd'hui ils ne reviennent pas. Mais les habitants du Siemens, en amharique, ils le disent « parc ». Et il est parc Womberne. Et ils le disent, le parc, c'est la charge. Parce que c'est interdiction de cultiver les champs depuis 30 ans, interdiction de faire du pastoralisme, interdiction de couper du bois d'eucalyptus. Et donc, c'est des amendes depuis une trentaine d'années. Et la manière dont s'est faite l'expulsion, moi, pour avoir parlé à tous ceux qui ont été expulsés, et je les connaissais avant et après, ils ont été expulsés à coups de bâton en signant un contrat en disant que c'était une expulsion, un déplacement volontaire. La plupart des habitants du Siemens ne savent ni lire ni écrire.
Mais ça, c'est spécifique à ce parc dont vous nous parlez aujourd'hui ou c'est une grande continuité en Afrique dès qu'on tente de créer des espaces de conservation?
Alors, les espaces de conservation en Afrique, il y a des très bons exemples qui sont plutôt des aires de biosphère, on va dire, mais les parcs nationaux, environ 350 parcs en Afrique, ce sont deux chercheurs, Daniel Brockington et James Sigo, qui ont travaillé là-dessus pendant 20 ans. Au minimum, ce sont 1 million d'agriculteurs et de bergers qui ont été expulsés des parcs africains au XXe siècle. Au maximum, 14 millions. Mais on ne peut pas certifier 14 millions, parce que parfois, certains reviennent. Non, c'est un schéma qui remonte au début de la colonisation et au début XXe siècle, où plus les colons, en fait, détruisaient la nature en l'exploitant, plus ils ont aussi créé des parcs. C'est-à-dire que la destruction allant grandissante, eh bien la surprotection, elle est aussi grandissante. Donc malheureusement, j'aimerais que le Siemens soit une exception, c'est plutôt la règle.
Vous êtes aussi interrogé, Guillaume Blanc, par Lou Elio, la rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire Le 1.
Vous parliez de la genèse, de l'histoire de ces parcs à leur début. Il y a aussi un certain imaginaire qui participe de la création de ces parcs naturels.
Tout à fait. Et là, c'est là que, alors je prêche pour ma paroisse, mais c'est là que faire de l'histoire est vraiment intéressant. Il faut se mettre dans l'esprit des colons, justement, qui sont partis tenter l'aventure africaine fin 19e, début 20e. Ils laissent derrière eux une Europe radicalement transformée, industrialisée, urbanisée. Et ils vont être persuadés de retrouver en Afrique la nature qu'ils ont perdue en Europe. Et là, on va avoir des récits de voyage. Stanley Livingstone, puis après Churchill, puis on va avoir les neiges du Kilimandjaro des Mingwe en 36, où ils parlent, en 37, pardonnez-moi, où ils parlent des Big Five, c'est-à-dire le lion, le buffle, le rhinocéros, la girafe. On va avoir Out of Africa, et puis après Romain Gary, puis après le National Geographic.
Donc on romantise ces espaces.
Eh bien, en fait, plus la nature disparaît en Occident, plus on la fantasme ailleurs. L'un de nos plus grands fantasmes, c'est un dessin animé qui date de 1954 par Osamu Tezuka, Le Roi Léo. Sauf que Disney l'a repris. Et en 1954, pensons à cette nature. Le Kilimandjaro qu'on aperçoit bien dans le parc du Serengeti, c'est des expulsions depuis les années 50 et malheureusement, actuellement, 140 000 Maasai en train d'être expulsé. Donc on a ce fantasme et il faut justement le comprendre sans juger. On a ce fantasme de l'Afrique refuge, c'est-à-dire une Afrique où la nature existerait encore.
Si votre travail est si intéressant, Guillaume Blanc, c'est également parce que vous permettez de penser, de mieux penser le travail des organisations non gouvernementales. Alors justement, quelle est la responsabilité aujourd'hui, la responsabilité ancienne également de ces ONG ?
Alors, ces ONG, je ne suis pas, je le précise, hein, je ne suis pas, j'ai pas mis une fléchette sur le WWF et l'UNESCO chez moi, hein, mais quand on regarde comment elles ont été créées, en fait, elles ont toutes été créées dans les années 20, c'est juste qu'elles ont changé de nom. Et c'était des chasseurs, qu'on a appelés ensuite des bouchers repentis, qui ont investi ces institutions, comme l'UICN, pour justement créer des réserves de chasse. Puis les réserves de chasse, bah une fois qu'il n'y avait plus rien à chasser, sont devenues des parcs. Et puis, la décolonisation est arrivée. Et ils ont lancé, à l'initiative de l'UICN et de l'UNESCO, un projet qui s'appelle le Projet Spécial Africain, en 1961. Et pour ce projet, donc on est à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, eh bien on a tous ces experts qui disent, je vous cite l'archive, hein, qu'il faut faire face à l'africanisation des parcs, donc aux indépendances. Et pour ça, il y a besoin d'une banque. Cette banque est créée le 11 septembre 61, on la connaît toutes et tous, le Fonds mondial pour la nature, World Wildlife Fund, c'est le WWF, et là encore, je vous cite l'archive, qui dit que sa mission va consister à envoyer des experts et aider l'Afrique à s'aider elle-même. Qui sont ces experts? Eh bien, des gardes coloniaux qui vont être reconvertis en experts internationaux, mais qui vont rester sur place jusqu'à la fin des années 70. Et là, avec l'alliance avec les dirigeants africains, vont reproduire les mêmes pratiques excluantes de conservation.
Ça, c'est pour l'histoire, Guillaume Blanc. Mais est-ce que ça remet en cause, est-ce que ça fragilise leur travail actuel à ces ONG?
Eh ben, je vous redonne un exemple éthiopien. Toutes les politiques forestières éthiopiennes actuelles sont guidées par deux chiffres. Il y avait 40% de forêts en Éthiopie en 1900, il n'y en a plus que 3%. Ces chiffres, ils sont inventés de toutes pièces en 1961 dans le cadre de ce projet spécial africain. Ces chiffres ne reposent sur rien. Aucune enquête dendrochronologique, les cercles des arbres, aucune enquête palynologique, le taux de pollen dans le sol, mais une croyance selon laquelle, en Afrique, la nature est dégradée. Al Gore reprend ces chiffres dans son livre « Une vérité qui dérange » pour lequel il reçoit le prix Nobel de la paix en 2007 pour sa contribution à la lutte contre le changement climatique et ses effets. Aujourd'hui, les politiques éthiopiennes sont guidées par ces chiffres. Ces chiffres sont vrais et il y a encore une trentaine d'exemples sur beaucoup d'autres choses. Mais malheureusement, ces croyances coloniales continuent à guider une partie du travail de ces institutions.
Lou Elio.
Alors, pour autant, ces parcs sont un enjeu économique et touristique très fort pour ces pays. Est-ce que c'est possible de concevoir un tourisme dans ces parcs qui soit à la fois écologique et respectueux de ces populations?
Alors, c'est la grande question. Oui, c'est tout à fait possible de promouvoir un tourisme respectueux. On l'a, par exemple, en Ouganda, où les populations sont véritablement responsables de beaucoup de parcs où il y a des gorilles. En revanche, elles sont responsables de l'accueil des touristes, mais elles n'ont pas le droit de gestion de leurs terres. On a en Éthiopie, le Simien, toute la ville de débarque, environ 40 000 personnes aujourd'hui, toute l'économie repose sur le parc. Quid d'une pandémie pendant 2 ans, quand tous les enfants ont arrêté d'aller à l'école à 14 ans pour être guide de parc. Et puis surtout, dans le livre « L'invention du colonialisme vert », ça a été dur à faire, moi j'ai essayé de calculer l'empreinte écologique d'une visite d'un parc national en Afrique. 90% des touristes sont occidentaux. Bien, faites le calcul. Pour avoir des bâtons de randonnée et une tente, c'est de l'aluminium, donc de la bauxite. La polaire, des résidus de pétrole. Le smartphone, du néodyme et du tantal. Le coût du billet d'avion, 0,5 tonnes de CO2. Les chiffres ne mentent pas. Aller visiter un parc en Afrique, c'est l'équivalent de détruire, dans le monde, les ressources qui sont mises en parc là-bas. Mais ça nous exonère des dégâts qu'on cause partout ailleurs en se disant « oui, mais ici, la nature survit ». Mais à quel prix?
Une voix, celle d'un écrivain qui parle aussi de l'Afrique dans un roman, en particulier Les Racines du Ciel, évidemment, c'est Romain Gary.
Si vous permettez, en quelques mots, il s'agit, quel que soit de dire, d'assurer, quelles que soient les exigences du progrès, de la marche en avant de l'humanité, quelles que soient les difficultés de notre tâche, et quels que soient les périls qui nous menacent, de nous encombrer des éléphants, c'est-à-dire de laisser une marge suffisante pour que tous les droits essentiels de la personne humaine, tout ce qui fait l'homme, tout ce qui constitue notre patrimoine humain essentiel depuis toujours, soit sauvegardé. Ce soit quel que soit le parti, quelle que soit l'idéologie, quelle que soit la tâche, quelle que soit l'entreprise, Quoi qu'on fasse, quels que soient les dangers et le péril qui nous menacent, il faut protéger, il faut nous encombrer des éléphants.
Quand vous avez commencé à entendre cette archive, Guillaume Blanc, de Romain Garré, qui date de 1956, vous avez levé le pouce vers le haut à plusieurs reprises avec un grand sourire en laissant entendre « c'est super ». Alors pourquoi c'est super d'entendre Romain Garré ?
Parce que ça monte toute la contradiction de la protection. Romain Garré, donc dans « Les racines du ciel », la quatrième de couverture, il le dit que la protection de la nature est une affaire d'hommes rassasiés. Et en fait, dans Les Racines du Ciel, sans divulguer la chose pour ceux qui ne l'ont pas lu, Romain Garré, en fait, il prend son personnage, Morel, un médecin, en fait on est au Tchad, hein, qui fait une croisade pour les éléphants. Et Morel a cette belle phrase où il dit « Moi, tout ce que je demande, c'est une marge pour la vie sauvage, une marge pour les éléphants. » Et là, Romain Garré nous décrit des hordes d'éléphants, des milliers d'éléphants. C'est super. Mais alors, qu'est-ce que ça nous montre aussi ? Première chose, c'est que la compassion, l'admiration et l'amour pour les éléphants, les Africains en seraient dépourvus. Or, il faut quand même bien retenir une chose en tête. Si nous tous, nous étions en pleine disette ou famine, on n'irait pas chasser un éléphant pour se nourrir. L'éléphant, on le tue. Alors, comment on le tue déjà ? Et comment on conserve 2 tonnes de viande pour se nourrir ? Non, les Africains ne tuent pas des éléphants pour se nourrir. Et deuxième chose, ce que Garré nous décrit, les hordes d'éléphants. Au Tchad, en 54, il n'existe plus que 800 éléphants environ. Mais Garré, c'est dur de critiquer un humaniste comme Garré, mais Garré reproduit l'imaginaire de l'Éden africain, une Afrique où il y aurait des éléphants, des zèbres. Mais c'est déjà faux. Même à cette époque, les éléphants sont déjà en voie d'extinction. Mais Garré nous dit que c'est possible, et qui en a le fardeau ? Certes un médecin, certes un humaniste, mais un homme blanc qui doit sauver l'Afrique des Africains.
Moi, j'avais gardé cette image de ce protagoniste en prison qui exprimait les hordes d'éléphants qui dévalaient dans la savane, et ça incarnait pour lui, ça symbolisait cette formidable idée de liberté. Lou Elliot.
Guillaume Blanc, comment imaginer alors protéger la nature africaine sans faire preuve de ce que vous appelez le colonialisme vert ?
Eh bien, j'allais dire, ça revient à la COP 16 et à la question à qui appartient la nature. Les parcs, même si c'est malheureux à dire, les parcs, ce n'est pas vraiment la solution, c'est un trompe-l'œil qui masque la réalité du problème, c'est-à-dire l'ampleur sans précédent de la destruction de la nature. Les gens qui vivent dans les parcs, ce sont des gens qui ne consomment pas de viande, pas d'électricité, qui n'ont pas de smartphone, pas d'ordinateur, qui devrait en fait être l'exemple. Si on veut sauver la nature, ce n'est pas à eux qu'il faut s'en prendre, c'est à l'exportation massive de café, de cacao, d'arachide, etc. Pour sauver la nature, arrêtons de croire que c'est en créant des enclaves de nature qu'on va la sauver, c'est en agissant non pas sur ces petites enclaves, mais sur le reste de la planète. Et c'est là où il est urgent de faire quelque chose pour qu'il y ait vraiment une marge. Mais les parcs, pour l'instant, ça ne sera pas la solution, l'histoire, malheureusement, le montre.
Je l'ai dit en introduction de notre échange, Guillaume Blanc, vous faites paraître un nouvel ouvrage intitulé « La nature de l'historien, par le haut, par le bas », c'est chez CNRS Éditions. C'est un ouvrage intéressant parce que vous entremêlez des souvenirs personnels et biographiques à votre démarche d'historien. C'est comme ça, en partie, que vous la justifiez. Qu'est-ce que vous avez voulu faire par cette méthode, j'allais dire ?
En fait, c'est un exercice, à la base, académique, imposé. Puisqu'on est en France, on a un...
Vous avez répondu à la consigne.
Ah, j'ai totalement répondu. Il s'agit de faire ce qu'on appelle son égo-histoire. Dire pourquoi on en est venu à être tel ou tel historien. Au début, j'ai pris ça de manière
c'est
un peu...
C'est le parti qui vous a demandé ça ?
C'est le parti, oui, c'est l'université. En fait, il faut faire une deuxième thèse en France si on veut pouvoir diriger des thèses. Donc, la deuxième thèse, je l'ai faite, mais il faut rajouter ce petit manuscrit. Mais j'ai essayé de le rendre utile, en prenant l'exemple de beaucoup de collègues, pour moi, essayer de mieux expliquer, un, le contexte universitaire français dans lequel on doit faire de la recherche, c'est-à-dire une université qui s'effondre, et deux, comment étudier la nature, moi, en 15-20 ans, et en fait, parce que moi, mes recherches ont traité de la nature au Canada, en France, dans les Cévennes, et en Éthiopie, et de voir que la nature est toujours définie, généralement, par les plus puissants. Contexte colonial en Afrique, contexte québéco-canadien au Canada, et en France, contexte de la France paysanne à sauver, et quitte à folkloriser des bergers, mais ça nous amène, voilà, à ce qu'est la nature pour l'historien, eh ben, un lieu de pouvoir, et en essayant de déconstruire cela, eh ben, peut-être, on pose la question à qui ça appartient, et on peut peut-être avoir la réponse, comment faire pour enfin la protéger.
Et ça donne un ouvrage passionnant, en résonance avec la démarche proposée par Pierre Bourdieu, celle de l'auto-analyse. Qu'est-ce que ça permet de produire, justement, là aussi, pour le chercheur que vous êtes, cette démarche de l'auto-analyse?
En fait, c'est justement, c'est Bourdieu qui l'expliquait, quoi, face à cet exercice, qu'il faut essayer de la faire de manière plutôt sincère, non pas pour comprendre ce qu'un historien a dans la tête, ce qui l'a poussé à faire ça, mais qu'avec une démarche plutôt sincère, on peut comprendre les mécanismes qui poussent les historiens à étudier tel ou tel fait de société. Parce qu'en fait, les historiens ne font que décortiquer le présent. Les questions que l'on pose à l'histoire, c'est des questions très actuelles, d'où l'essai d'auto-analyse.
Merci beaucoup Guillaume Blanc de ces explications riches, de ces ouvrages aussi. Je retiens le dernier, La nature de l'historien, par le haut, par le bas, c'est chez CNRS Éditions. Et merci également à Lou Elio pour cette première. Vous nous rappelez ce qu'on trouve dans le 1 cette semaine, et notamment la une.
Dans le 1 cette semaine, on se demande à qui appartient vraiment la nature.
Vaste question, merci à vous deux d'être venus dans Question du Soir.